Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Minute Papillon. Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon. Aujourd'hui, on retrouve pour notre rendez-vous Tout s'explique Isabelle Guyomard, fondatrice et présidente du laboratoire Osalis, survivante d'un cancer du sein, qui parle du tabou de l'intimité de celles qui ont eu un cancer féminin. Quelle intimité, quelle sexualité quand on a souffert d'un cancer du sein, d'un cancer de l'utérus, de l'ovaire? Les traitements lourds, la chimio, la prise de médicaments pour empêcher que les hormones stimulent les cellules cancéreuses, c'est-à-dire l'hormonothérapie, tout cela, ça a des conséquences lourdes. Avec une ménopause sévère, brutale, dont les effets peuvent être très importants, comme l'incontinence urinaire, les infections à répétition, l'arrêt de la sexualité, voire même la dépression. Alors, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour améliorer cette situation? Quels sont les traitements? Quelles sont les pistes d'avenir? Dans cet épisode, on en parle avec Isabelle Guyomard, fondatrice et présidente du laboratoire Osalis. Cette survivante d'un cancer du sein a écrit « Combattante » aux éditions Cherche Midi, un témoignage dans lequel elle raconte la maladie et l'un des grands tabous des cancers féminins, l'intimité de la femme, écrit-elle. Première question à Isabelle Guyomard, qu'est-ce que ce tabou de l'intimité de la femme qui a souffert de cancer?
C'est un vrai tabou au sens où la grande majorité, 80% des cancers du sein sont hormonodépendants et que la prévention de la récidive de ces cancers passe par la prescription d'une hormonothérapie qui porte très mal son nom, puisqu'en fait il s'agit de molécules qui justement vont s'opposer à l'action des hormones sur les organes cibles, la glande mammaire, mais aussi toute la sphère urogénitale qui bénéficie de l'imprégnation hormonale tout au long du cycle féminin. Et donc ces molécules qui sont essentielles à la survie des femmes au long cours vont altérer considérablement et avoir une action importante sur la sphère urogénitale. Alors il y a une veine pour ces femmes, puisque ça s'apparente à une ménopause puissance 1000, puisque c'est une ménopause qui est rapide, profonde, brutale. Et c'est l'objectif qui est recherché durant ces années d'hormonothérapie. Et cette ménopause profonde, elle est taboue, puisque les femmes n'osent pas s'en plaindre, puisqu'elles sont en vie. Elles bénéficient de traitements qui leur sauvent la vie. Et il y a une culpabilité importante chez les femmes à se plaindre après avoir traversé un cancer du sein, finalement de quelque chose qui est traité avec un peu de condescendance et qui est traité comme une simple sécheresse vaginale, comme des symptômes de ménopause classique. Ça n'est pas le cas. C'est une ménopause plus profonde avec des symptômes plus lourds un handicap plus lourd.
Ces conséquences très lourde, ça peut être l'incontinence urinaire, voire les problèmes de sexualité, et notamment les survivantes de cancer peuvent connaître des douleurs à la pénétration quand elles gardent une vie sexuelle.
Oui, alors on parle de sécheresse vaginale, alors que les médecins qualifient ces effets secondaires liés à l'hormonothérapie de syndrome urogénital. Donc ça va au-delà. On est au-delà de la sécheresse vaginale simple. Il y a des symptômes de urinaire, cystite, incontinence urinaire, et la sécheresse vaginale peut aller jusqu'à l'atrophie vaginale. Donc on est sur quelque chose de plus difficile à supporter, et c'est souvent la cause de l'arrêt des traitements, car les femmes ne sont pas idiotes et identifient très rapidement au fil des semaines et des mois les effets secondaires qui s'installent. Elles n'osent pas le dire, elles imputent l'arrêt du traitement à d'autres symptômes, mais souvent la cause de l'arrêt de l'hormonothérapie, c'est une cause gynécologique. Et donc je qualifie cela d'un enjeu de santé publique. C'est-à-dire, je ne parle plus de sexualité, je parle de santé publique. Car ces molécules qui sauvent la vie des femmes, il faut aider les femmes à les supporter et à être observante. Donc, on est bien au-delà d'un confort sexuel dont on pourrait dire finalement on peut s'en passer ou on le traite avec des lubrifiants, des ovules d'acide hyaluronique qui par ailleurs ne sont pas remboursés. On est sur un enjeu de santé publique, aider les femmes à supporter ces traitements dont les médecins augmentent de plus en plus la durée. Il y a quelques années, on était à 5 ans. Aujourd'hui, la communauté scientifique commence à prôner 7 ans, voire 10 ans. Donc, aider les femmes à supporter et à être observantes, c'est un enjeu de santé publique et il y a des moyens. Il y a quelques années, il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a des techniques qui existent et qui permettent aux femmes d'avoir une vie parfaitement normale, voire mieux que la normale.
Alors, c'est quoi ces techniques?
J'ai été auditionnée au Sénat l'année dernière, puisque je milite pour le remboursement et la prise en charge de ces techniques. Et des médecins français ont fait entrer en France ces techniques de laser vaginal, qui depuis 8 ans sont largement utilisées dans le monde entier et qui ont prouvé à la fois leur parfaite tolérance, mais également leur efficacité. Je pense que les générations de mes filles, dans 20 ans, 30 ans, peut-être que toutes les femmes ménopausées, tout simplement, auront accès à ces techniques et n'auront plus à prendre de traitement hormonal et que les femmes ne vivront plus comme une punition la ménopause normale. Alors aujourd'hui, on se concentre d'abord, celles qui, pour lesquelles il faut ouvrir la voie, c'est celles qui ont eu un cancer du sein. Là, on a un vrai bénéfice, elles peuvent retrouver une vie normale et heureuse et ainsi parfaitement supporter leur traitement hormonal. Donc, ce sont des techniques qui sont aujourd'hui onéreuses, peu répandues en France. Il y a à peu près 25 appareils laser en France. Et ce qui est le travail de libérer la parole et d'informer, tel que par exemple on le fait aujourd'hui, c'est à la fois d'informer les femmes qui n'ont pas l'information, mais également les médecins, car beaucoup de médecins ne connaissent pas encore ces techniques, de sorte à ce que la conjugaison des deux, à ce que les médecins poussent à l'achat de ces appareils, que les femmes aient accès à l'information et qu'enfin ces techniques puissent être remboursées, bien sûr. Il est bien moins onéreux de rembourser 3 séances de laser, puis une séance par an, que de prendre en charge une femme pendant 10 ans avec des cystites à répétition, des candidoses à répétition, des fuites urinaires, de la sécheresse vaginale, et puis finalement une dépression qui s'installe petit à petit. Ça coûte beaucoup plus cher. Et je ne parle même pas de l'arrêt de l'hormonothérapie qui, à terme, coûte beaucoup plus cher avec les récidives.
Vous dites, après avoir lutté pour survivre et parfois perdu une part de notre féminité, nous sommes condamnés à l'absence de sexualité épanouie. Alors que, vous faites un parallèle, que les hommes, quand ils ont eu un cancer de la prostate, les médecins prescrivent des médicaments aux hommes, le Viagra est remboursé. Selon vous, pourquoi il y a une différence de traitement entre femmes et hommes au niveau de la sexualité des survivants et survivantes de cancer?
Il y a un vrai tabou. La sexualité masculine passe par l'érection, absence d'érection, pas de sexualité. Et donc là, effectivement, la recherche d'ailleurs a avancé beaucoup plus vite. Ça fait déjà de nombreuses années que les injections intracaverneuses existent, puis le Viagra. La recherche sur le plaisir féminin et la sexualité féminine, elle est réduite à néant. Certains médecins disent d'ailleurs que le Viagra fonctionnerait très bien chez la femme, mais il n'y a eu aucune recherche, étude de fait et commercialisation en ce sens. Donc, oui, il y a un tabou puisque nous, notre sexualité se borne finalement dans l'esprit général, se borne finalement à une pénétration, et que finalement, si on facilite cette pénétration avec un lubrifiant, tout va très bien. Ça ne suffit pas, et il faut des traitements qui soient bien plus aboutis que de simples lubrifiants, surtout dans ces situations de ménopause intense.
Merci à Isabelle Guyomard pour cet entretien. Minute Papillon, c'est le podcast original de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver avec son point d'exclamation sur toutes les applis et les plateformes d'écoute en ligne. Par exemple, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer et beaucoup d'autres plateformes. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et aussi nous écrire à audio@20minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.
Thank you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.